Vous écoutez France Culture.
Culture d'Islam d'Abdel Wahab Meddeb. Nous entamons aujourd'hui le dernier volet de cette série consacrée à la situation en Iran, la situation de politique intérieure, les problèmes des prolongements géopolitiques. Nous avons commencé avec la notion générale, qui ne nous vient pas évidemment d'Iran, mais où tout l'espace de la territorialité islamique se trouve concerné. Ce 11 septembre, à la fois comme événement et comme concept, pour reprendre cette notion de concept qui a été accolée à l'événement par deux éminents philosophes, Jacques Derrida et Habermas. Et aujourd'hui, deuxième temps, après la semaine dernière, exclusivement consacré à l'Iran, à sa substance, à sa politique, par deux Iraniens de l'extérieur, mais encore en profonde implication avec ce qui se passe dans le pays, appartenant à cette diaspora très importante qui conduit un travail énorme sur le pays, peut-être diaspora d'ailleurs de réserve, comme très souvent lorsqu'il y a de la dissidence à l'intérieur, le relais extérieur est majeur. Nous recevons la Dane Borumand, qui est historienne, qui avait mené des recherches qui ont abouti à une thèse, une très belle thèse, sous la direction du grand spécialiste de la Révolution française, M. Furet, n'est-ce pas, la Dane Borumand, La guerre des principes, une étude, une recherche sur les assemblées révolutionnaires face aux droits de l'homme et à la souveraineté de la nation, une date très précise, travail sur les archives parlementaires, ce qui a pu être dit en ce moment de très haute intensité, qui concerne l'humanité entière, bien sûr, mai 1789, juillet 1794, cette thèse volumineuse est parue de près de 600 pages aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, préfacée de Mona Ozouf. La Dane Borumand est actuellement chercheur, directeur de recherche au sein même de l'institution, de la fondation justement Borumand. Elle nous parlera tout à l'heure. Elle conduit un travail très impressionnant de précision, l'exigence de l'historienne, la précision du concept de révolution justement, sur lequel elle a déjà réfléchi et dont elle a tiré matière dans la matrice même où est né le concept, qui va avoir un destin considérable sur plus de deux siècles jusqu'à notre époque. Hein, nous parlons de révolution islamique iranienne. Qu'est-ce qui est plus important dans cette terminologie? Est-ce le mot révolution? Est-ce le mot islamique? En tous les cas, tant de questions qui vont être posées donc, à la Dane Borumand. Et de Genève, on est en duplex de Genève avec Mohamed Reza Djalili, qui est un des très grands experts le plus écouté, très souvent consulté sur ce qu'il en est des événements qui se trament ou qui fusent comme par surprise dans l'espace iranien. Il est professeur à l'Institut des hautes études internationales de Genève et il a écrit beaucoup de livres. Personnellement, j'ai sous les yeux un de ses livres publié aux presses de Sciences Po à Paris, et Mohamed Reza Djalili, auteur de « Iran, l'illusion réformiste », mais il a publié beaucoup d'autres livres. Je m'adresse directement à vous, Mohamed Reza Djalili. Nous avons Ladan Boroumand qui est à côté de moi en studio à Paris. Vous nous parlez de Genève. Nous vous transmettons notre salut de Paris, Mohamed Reza Djalili.
Bonjour.
Bonjour. Et j'aimerais bien que vous nous actualisiez votre bibliographie autrement plus riche, d'autres titres que celui que je viens de citer, « Iran, l'illusion réformiste ». Nous reviendrons d'ailleurs sur cette illusion réformiste notamment, même si nous allons privilégier avec vos deux voix, Ladan Boroumand et Mohamed Reza Djalili, sur ce qui se passe en ce moment même en Iran, parce que nous sommes très concernés par ce qui se passe en Iran depuis juin 2009.
Oui, écoutez, depuis ce livre sur l'illusion réformiste, j'ai publié un petit ouvrage sur la géopolitique de l'Iran qui est paru en 2005. En 2008, j'ai co-dirigé...
C'est chez quel éditeur, monsieur Djalili?
C'est Complexe. Les éditions Complexes
de Bruxelles.
Oui. Et puis le deuxième ouvrage date de 2008 sur le monde turco-iranien qui a été publié chez l'Harmattan en coédition avec notre institut à Genève. Et puis je prépare un livre pour la découverte, sur une sorte d'introduction à l'histoire contemporaine de l'Iran. J'ai d'autres projets, mais c'est pour plus tard.
Et puis beaucoup d'articles, beaucoup d'interventions dans les magazines, dans les quotidiens. Vous êtes très,
peut-être
très
un
souvent...
peu trop même.
Oui, mais c'est important. Nous avons un rôle à jouer, je crois, par rapport à la gravité et l'intensité de la situation. Ne le pensez-vous pas, Mohamed Reza Djalili?
Tout à fait. Je pense que surtout, il y a une communauté iranienne très vaste à l'extérieur de l'Iran et une véritable intelligentsia transcontinentale, globalisée, si vous voulez, qui suit les événements d'Iran et même plus que les événements. Par exemple, j'ai l'impression que sur la recherche historique depuis 30 ans, sur le 19e, sur le début du 20e siècle, beaucoup de travaux ont été menés à l'extérieur de l'Iran, très souvent, hélas, en anglais, un peu moins en français, mais aussi des publications en allemand qui prouvent qu'il y a véritablement des équipes au travail qui suivent les événements iraniens et qui essayent de comprendre ces événements en se retournant vers le passé, qui est quand même une des clés explicatives de ce que l'Iran vit aujourd'hui.
Pour ces recherches, on peut remonter même jusqu'à l'archéologie, puisque je sais que mon ami Dariush Aygan est très, très, très admiratif de son propre fils qui scrute des documents fort anciens, millénaires, de la toute première antiquité de la Perse.
Oui. Il y a eu véritablement des progrès aussi dans ce domaine-là, à l'intérieur aussi de l'Iran d'ailleurs. De nouveaux sites ont été découverts, des nouvelles lectures, des documents qui étaient des lectures incomplètes jusqu'à présent sont en train de se compléter. Véritablement, je dirais que l'historiographie iranienne ou à propos de l'Iran s'est développée de manière considérable durant ces 30-40 dernières années.
Donc cette diaspora à la fois profondément enracinée dans la réalité iranienne tout en étant en décentrement à l'extérieur et, comme vous avez dit, globalisé, c'est-à-dire articulant cette identité première iranienne à cette cosmopolitique qui est à venir, c'est probablement très important pour le futur iranien.
Or, je pense que c'est extrêmement important, non simplement pour l'avenir politique et économique du pays, parce que c'est eux qui vont contribuer à la relance de l'économie le jour où l'Iran sortira de ses problèmes actuels, mais aussi au niveau intellectuel. Et puis, surtout, ils transportent avec eux une image de l'Iran qui est très différente de l'Iran que le pouvoir à Téhéran veut présenter une image de l'Iran multiple, de l'Iran divers, mais aussi en même temps fortement unifié dans une identité profonde, ancienne et riche. Donc, aucune inquiétude par rapport à l'avenir qui nous attend à travers des constatations qu'on peut faire déjà à partir de l'extérieur de l'Iran.
Ladan Boroumand, vous-même, vous êtes de ce type de figure, puisque indifféremment, vous circulez en double résidence entre Paris et Washington, si je ne me trompe pas. Vous préférez d'ailleurs vous imaginer, vous situer résidente à Paris et travaillant à Washington, puisque la fondation, le siège de la fondation est à Washington, et sa langue d'expression est l'anglais, d'ailleurs.
Oui, et l'anglais et le persan.
Oui.
C'est les deux langues. Et donc, malheureusement, parce que si vous voulez atteindre un public assez large, vous êtes obligé de passer du français à l'anglais. Et ma sœur et moi, qui avons fondé cette fondation, qui est nommée à la mémoire de notre père, nous étions toutes les deux francophones, mais on a dû apprendre l'anglais et se mettre à l'œuvre en anglais, hélas.
Vous travaillez aussi beaucoup en farsi.
En persan aussi. Oui. J'ai dû approfondir, comme vous le dites, à cause du travail qu'on fait de traduction des textes classiques, autant qu'on le peut, ou nos moyens nous le permettent. On traduit des textes classiques de la démocratie, par exemple Spinoza, récemment, que nous avons traduit la conclusion du traité théologico-politique.
Il faut traduire l'intégralité du traité.
Ah oui, je sais.
C'est vraiment essentiel, parce que la problématique est centrale, hein, cette tension entre le principat et le pontificat. Je crois qu'elle est au cœur du sujet, puisque nous avons cet abominable concept qui a fait tant de mal et qui a tant abîmé l'Iran, de Velayat al-Faqih.
Oui.
Il est totalement dans la réponse et dans Spinoza.
Vous savez, nous ne l'avions pas, nous l'avons inventé. En 30 ans, quasiment, ça n'existait pas dans la culture chiite, ce concept. C'est vraiment une perversion de la pensée de
l'Ayatollah Khomeini. On peut traduire ça pour reprendre les termes du Tractatus de Spinoza, le principat par le pontife.
Oui, absolument.
L'exercice du principat par le pontife.
Absolument. Et là, il y a un grand travail à faire des débats qu'il y a eu au XIIe et XIIIe siècle entre les juristes de l'Empire et les juristes de la papauté. Et à mon avis, ce sera un grand enrichissement de le faire. Mais il y a le problème de la langue, le problème de la spécialisation, c'est une langue ancienne, des concepts, et ça, c'est vraiment très difficile. Je cherche vraiment des traducteurs qui seraient intéressés pour traduire les grands débats de Guillaume d'Ockham, par exemple, ou d'autres théologiens.
Ou le Dimonakeia de Dante aussi.
Oui, absolument. Ouais. Et il y a un grand livre de Georges de Lagarde, La naissance de l'esprit laïque. J'ai toujours rêvé pouvoir un jour trouver quelqu'un qui nous aiderait à traduire cet ouvrage vraiment magistral qu'il faut absolument traduire en persan et sans doute en arabe aussi. C'est
très
important.
Bien sûr, et tant que vous y êtes, alors là pour ce corpus, pensons à Machiavel, à Bodin, pour arriver jusqu'à Hobbes finalement.
Oui, Hobbes.
Et beaucoup plus tard.
Alors, les intellectuels iraniens ont fait un gros effort et vraiment, il faut leur rendre hommage dans les 30 dernières années avec des moyens vraiment très, très peu de moyens. Ils ont commencé à traduire les grands textes. Hobbes avait été partiellement traduit dans les années 60 ou même 50, mais maintenant, le Léviathan a été traduit par...
C'est un événement majeur.
Oui. Et à l'époque, enfin, il n'y a pas beaucoup, pour les classiques, il n'y avait pas tant de censure. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Je ne pense pas qu'on aurait pu traduire le texte de Spinoza et le publier sous Ahmadinejad, par exemple.
Oui, mais enfin, vous êtes en ce temps de dissidence et avec ce qui accompagne la dissidence, très souvent, c'est ce qu'on appelle le samizdat, c'est-à-dire ce qui se lit sous le manteau.
Oui.
Il faut quand même traduire.
On le fait, oui, absolument. Oui, et l'Internet est le meilleur moyen de diffuser les textes.
Avant d'en venir aux faits eux-mêmes de ce qui se passe en Iran et d'analyser ce qui se passe depuis la contestation des élections truquées, depuis précisément le 12 juin 2009, Mohamed Reda Jalili, l'Aden Boroumand, je trouve important que nous parlions encore, que nous consacrions un moment sur justement cette notion conceptuelle qui semble majeure et la nécessité de vouloir comprendre et analyser ce qui se passe en Iran, au-delà du factuel et de l'urgence du présent et de l'actualité, parce que nous sommes en situation d'urgence, nous le savons, nous sommes dans une rupture, nous sommes dans une mutation, nous sommes dans une attente impatiente que cela véritablement aboutisse à des temps meilleurs. Cela semble possible, les indices sont là, plus que les prémices, mais avant tout cela, pour l'analyse globale de cette révolution islamique, la dignité du concept est majeure, la réflexion sur la tradition révolutionnaire en général est majeure, sur la manière avec laquelle elle a été pensée en Occident. Et là, l'Aden Boroumand, j'imagine que ce n'est pas d'une manière innocente que vous avez choisi de travailler sur 1789, d'aller au cœur des archives, de mener l'enquête au plus près, selon les moyens et les méthodes les plus rigoureuses de l'historien. Vous étiez quand même disciple de Furet. Et en même temps, analyser à partir de là ce très beau titre de votre thèse, « La guerre des principes », l'enquête suite à l'enquête que vous avez menée, des débats parlementaires qui ont eu lieu à travers les assemblées révolutionnaires. Et vous avez mis en situation et en vis-à-vis particulièrement ce qu'il en a été des droits de l'homme d'un côté, de la souveraineté de la nation de l'autre, les débats qui se sont exprimés entre mai 1789 et juillet 1794.
Oui, vous savez, quand on vit à travers une expérience de l'ampleur et de la tragédie de la révolution islamique...
Du désastre.
Oui, désastreuse et tragique. On en revient avec un bagage de questions et il faut chercher les voies pour répondre à ces questions. Et elles sont multiples et elles viennent de tous les côtés. C'est-à-dire, on se pose des questions sur l'Occident, on se pose des questions sur l'Iran, on se pose des questions sur la religion. Et donc, il faut faire pas à pas. Il faut se dire, très bien, on va attaquer d'abord un volet, puis l'autre, et ensuite, si la vie le permet, le troisième volet. Et la question primordiale que j'avais, l'Iran, qui est tombé dans le piège khoméniste, était un État-nation moderne, autoritaire. Donc nous étions déjà, aussi bien sur de jure que de facto, une entité moderne, un État-nation. Je voulais comprendre ce que ça voulait dire, un État-nation. On parle de la nation, c'est notre environnement, mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis issue d'une famille de nationalistes libéraux iraniens. On parlait de l'Iran, mais je ne comprenais pas vraiment concrètement et rationnellement ce que c'était que cette nation-là. Et pour cause, parce que la nation, c'est confus, c'est un mythe, ce n'est pas vraiment une formule mathématique.
C'est une construction.
Oui, à la fois c'est une invention, c'est une construction, mais elle ne se dit pas complètement. Elle est légendaire, elle est mythique, elle est réelle, elle est historique, elle est politique, elle est juridique aussi, mais il y a toujours un aspect, une dimension de la nation qui fuit et qui ne se laisse pas appréhender. Et je voulais comprendre, et de fil en aiguille, parce que si vous regardez l'histoire des nations dans le monde, chaque nation se forme par la contradiction d'une autre nation plus forte qui est venue un jour s'imposer et la vaincre et l'occuper et l'humilier. Il y a seulement deux nations dans l'histoire du monde qui ont émergé d'un univers qui n'était pas un univers de nations, et c'est l'Angleterre et la France. Et du coup, comme j'étais en France et que j'y étudiais, c'est la France que j'ai choisie comme cas pour comprendre d'où émerge cette chose-là. Et pour la comprendre vraiment à fond, j'ai dû remonter à Rome, à l'histoire de Rome, ensuite comment la monarchie française a petit à petit, bout par bout, bribe par bribe, constituer cette nation quel était finalement le fil conducteur et d'où vient la notion de souveraineté. Il y a beaucoup de débats parmi les juristes sur la notion de souveraineté, mais il y a énormément d'erreurs et d'illusions d'optique aussi. Et en fait, la souveraineté, comment ça s'est inventé? Je me souviens lire les ordonnances des rois de France qui étaient encore en latin, moi qui n'entends rien au latin, essayer de trouver le mot qui ressemblait le plus à la souveraineté, je ne me souviens plus maintenant, pour l'emporter ensuite chez des amis qui connaissaient le latin pour me le traduire. C'est dire que c'était très, très compliqué et il fallait vraiment comprendre. Et j'ai essayé de comprendre cette histoire de la Révolution et aussi les droits de l'homme. Bien sûr, parce que quand vous vivez une révolution où du jour au lendemain, on vous prend tout votre identité, votre existence, votre honneur, la vie des gens que vous aimez, sans ce jaillissement de l'arbitraire pur vous choque et vous vous demandez, du coup, les droits de l'homme revêtent un sens très concret. C'est très palpable. Je me souviens quand on débattait avec des professeurs qui disaient « Mais les droits de l'homme, c'est une notion abstraite, c'est une philosophie abstraite. » Mais je pensais « Mais ils ne se rendent pas compte, ces Occidentaux. C'est très concret, les droits de l'homme. C'est quand je rentre à la maison, j'ai le cœur qui bat parce que j'ai peur qu'on vienne m'arrêter. Mais est-ce qu'il y a plus physiologique que les droits de l'homme ? Parce qu'à ce moment-là, ça a un sens tout à fait concret pour vous. » Et ça aussi, je voulais comprendre d'où ça venait, comment ça avait émergé. Et donc, il y a eu cette double étude de l'itinéraire du concept des droits de l'homme dans l'histoire de l'Occident, qui remonte évidemment au débat entre la papauté, la religion, l'espace laïque, l'espace évacué par le Christ, si j'ose dire, qui laisse un champ libre aux hommes, qui vont viennent se combattre l'idée de nation, une appartenance historique, et l'idée de l'homme qui est à la fois abstrait mais aussi très 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 concret.
Donc c'est nation et droits de l'homme qui vont entrer en contradiction, oui, d'une certaine manière. Et les nations seraient d'une certaine manière le cimetière des droits de l'homme.
Oui,
ce serait excessif de parler comme ça.
C'est à la fois sur le plan principiel correct, ce que vous dites, mais sur le plan historique, c'est excessif, si j'ose dire. Disons que les nations, dans leur existence en tant que quantité politique et historique, ont précédé les droits de l'homme. Ils ont préparé aussi, dans la tension sur la souveraineté entre la papauté ou la religion et les princes séculiers, les nations ont créé un espace où les droits de l'homme ont pu intellectuellement se développer. Donc il y a eu à la fois une complicité, mais aussi une incompatibilité absolue qu'on voit dans la Révolution française pendant la Terreur, et que finalement les Occidentaux, Dieu merci, ont réussi à surmonter au profit des droits de l'homme en fondant l'Europe. Je dis vite.
La Danne Boroumande, j'ai été saisi par une allégorie qui accompagne un de vos articles. Je voulais savoir si elle est de votre invention ou si elle appartient à une autre instance éditoriale. Cette dame antique, aux yeux bandés, dressant une balance, on dirait celle qui est censée représenter la démocratie, la justice, mais qui a les yeux bandés, qui est aveugle. Et ça m'a fait penser à la synagogue, la fameuse synagogue, l'allégorie de la synagogue sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg, les yeux bandés.
Les yeux de la justice sont, en général, sont bandés parce qu'il faut qu'elle mesure seulement les faits. La dame qui représente la justice, elle a la balance et elle ne doit pas regarder. Il ne faut pas qu'elle soit influencée par d'autres facteurs que les faits qui pèsent dans la balance. Et aujourd'hui, en Iran, nous avons une situation où nous avons un État quasiment criminel d'un côté et un peuple qui demande avec beaucoup de civilité et de patience ses droits et réclame sa dignité. Voilà comment on peut décrire en une seule phrase la situation à laquelle nous sommes confrontés, mais elle recèle de beaucoup, beaucoup de détails et d'importants détails encore.
Mohamed Reza Djalili, dans l'expression révolution islamique, qu'est-ce que vous mettez en premier en termes de concept, de notion, de ce qui s'est passé dans la réalité du fait, en termes de généalogie vraie des notions, révolution ou islamique ?
Mais révolution, parce que ça renvoie à une volonté qui a existé en Iran à partir de la fin du 19e siècle. Mais simplement, le contenu de ce concept de révolution a changé selon les étapes. Dans la première révolution de 1906, puisque vous parlez tout à l'heure de justice, les gens ne cherchaient même pas un parlement ou un parlementarisme. Ils voulaient une maison de la justice. Et c'est-à-dire que pour eux, la justice allait de pair finalement avec les institutions qui deviendraient démocratiques. Et dans cette première révolution, il y a eu une alliance circonstancielle entre l'intelligentsia de l'époque, qui était breuvée de culture occidentale, qui a amené ces concepts de révolution, de constitution, etc. Dans le pays, auquel pendant un temps relativement bref, certains membres du clergé se sont associés puisqu'ils avaient une capacité de mobilisation de la société. Mais ce clergé s'est retiré très vite des affaires politiques et ce sont les laïcs en fait qui sont restés au pouvoir. Dans la deuxième révolution, celle que nous continuons à vivre depuis 30 ans, c'est de nouveau cette association, mais cette fois, le clergé n'a pas laissé le courant laïque, l'intelligentsia occidentalisée d'avoir un rôle. Et on a éliminé totalement cette intelligentsia. On a gardé le mot révolution, mais tout ce qu'on a fait, c'est le recours à des concepts dit islamique ou prétendu islamique. Et si vous voyez la constitution de la République islamique aujourd'hui, le mot islamique revient beaucoup plus souvent dans le texte que le mot révolution. C'est une sorte de retour à des principes qui sont d'ailleurs souvent en contradiction avec les principes de la première révolution. Mais par rapport
vous parlez à la celle de 1906, vous voulez dire.
Celle de 1906, la révolution constitutionnelle qui était une révolution qui cherchait l'ouverture, la démocratie et surtout qui se fondait sur l'idée centrale de la souveraineté populaire. Dans la deuxième révolution, le jour où il a fallu même élaborer une constitution, Khomeini a refusé de recourir à la souveraineté populaire. Il n'a pas voulu une assemblée constituante, il a voulu une assemblée d'experts. Les experts sont là par leur expertise et donc ils ne représentent pas la souveraineté populaire parce que justement, ce n'était pas son principal souci. Et peut-être même qu'il craignait cette souveraineté populaire. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est le clergé et ses idées qui ont prévalu dans la mise en place du régime actuel.
Alors, c'est passionnant, la situation est vraiment passionnante, la Dan Boroumand et Mohamed Reza Djalili. Ce que je pourrais inférer à partir de ce qui vient d'être dit, la machine révolution intégralement, nourrie, qui est là présente, donc qui nous vient de 1789 en premier, nourrie par la substance islamique, avec tout un ensemble de contradictions, ce qui fait que le combat contre cette monstruosité est double. D'une part, un combat contre la machine révolution, d'où Ladène Boroumand, de votre rôle majeur dans l'institution de ce mémorial, le mémorial des victimes de cette révolution. Oui. Hein, là, vous menez un travail immensément précis d'historien, de documentation. Aucun nom n'est inscrit que suite à une enquête très précise. Vous parvenez à combien de noms? Combien de victimes la machine révolution?
Pour l'heure, nous avons dans la base de données 16 000, mais je ne pense pas que ça soit même 20 % des cas.
Vous continuez à travailler.
Oui,
16 000 déjà traités.
On a 16 000 dossiers, plus ou moins.
Et le deuxième front du combat... Et on finit sur ce front-là avant d'en venir à ce qui nous vient à partir de juin de 2009. C'est le combat contre le droit tel qu'il a été reformulé à partir des principes de la charia, d'où là le rôle de Shirin Ebadi, des militants des droits de l'homme, qui en général n'optent d'ailleurs pour aucun leader, simplement pour le principe des élections libres, et qui optent contre, combattent et militent contre la persécution des minorités religieuses, notamment les persécutions contre les Baha'i, et puis cette défense du droit des femmes, de leur égalité, et donc le combat très précis contre les articles 19, 21 et 115 de la Constitution de 1979, tous inspirés de la charia pour instituer l'inégalité des sexes et des genres. Et là, ces militants vont jusqu'à solliciter la Convention onusienne pour l'éradication de toutes les formes de discrimination contre les femmes. Je crois que c'est ce double combat qui est majeur, Mohamed Reza Djalili.
Oui, tout à fait. À l'inégalité des genres, il faut aussi ajouter l'inégalité entre les pratiques religieuses. C'est-à-dire que dans l'article consacré à l'égalité des Iraniens devant la loi, il n'y a pas ni référence au genre ni à la religion. Donc on reconnaît quelques minorités anciennes, historiques de l'Iran, mais on ne reconnaît pas sur le même pied d'égalité tous les Iraniens de la même manière. Donc il y a là une différenciation qui est inscrite même dans le texte de la Constitution. Mais pour en revenir à la révolution, je partage entièrement ce que Mme Bourman disait à propos de la révolution. Ce qui m'intrigue en comparant la révolution iranienne islamique avec la révolution française, c'est que on n'a pas de thermidor, en fait, contrairement à ce que certains ont voulu croire au moment de l'élection de M. Khatami. La révolution continue, et je pense que tant que dans un pays comme la République islamique, on ne puisse pas critiquer, même très indirectement, le fondateur de la République islamique, nous sommes toujours dans cette période révolutionnaire.
Là, vous revenez, Mohamed Reza Djalili, à la thèse que vous illustrez dans votre livre « Iran, l'illusion réformiste », qui est une thèse qui essaie de montrer que la distinction entre radicaux et modérés est nulle et non avenue.
Voilà,
et que le temps de Khatami était forcément destiné à l'échec, que c'était une expérience qui ne peut que s'inscrire dans le négatif.
Totalement, oui.
Vous partagez les analyses de Mohamed Reza Djalili, Ladène Bourman.
Mon admiration pour le professeur Djalili date de cette époque parce que c'était la grande mode. Tout le monde était fou, amoureux et admirait M. Khatami, qui, à le comparer avec M. Ahmadinejad, c'est un être civilisé, relativement, parce qu'il ne fallait pas oublier, et nous, on le savait parce que c'était notre travail, qu'il était un des gens qui avait promu le fatwa contre Salman Rushdie. Il était ministre de la culture à l'époque.
Et M. Djalili est un des rares.
C'est aussi important, mais il ne s'agit même pas de juger les hommes politiques. Il s'agit de voir sur quel ensemble de principes ils se fondent dans leur approche politique. Et Khatami, d'emblée, quand il est arrivé, il a dit qu'il ne mettait pas en cause le pouvoir absolu du leader. Une fois que vous êtes favorable à un pouvoir absolu dans le corps politique, vous ne pouvez pas mener des réformes à bien. Et ça, c'est quelque chose de très simple qu'à l'époque, personne n'a voulu comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Alors que si une chose pareille s'était passée aux États-Unis ou en France, tous les juristes juste aurait commencé, les historiens, les intellectuels, les journalistes, ils auraient commencé à dire, écoutez, vous moquez de nous avec un pouvoir absolu dans le corps politique. Mais quand il s'agissait de l'Iran, toutes les exceptions étaient bonnes. Et M. Jalili, il a eu vraiment, il s'est pas laissé influencer. Et à l'époque, quand on disait ça, on était totalement écartés. C'était l'analyse. Il fallait penser que...
Il faut avouer personnellement l'unique expérience que j'ai de l'Iran. J'ai eu une visite, j'ai été invité d'ailleurs par autour du cercle d'amis de Dariush Aigan pour participer à un colloque international qui s'est tenu à Isfahan en pleine époque Khatami, où ils ont invité surtout des Américains et des collègues de grandes universités américaines, parmi lesquels des signataires du fameux, vous savez, ce manifeste qui a été signé par une cinquantaine de grands académiques et de grands intellectuels américains qui appelaient à la guerre juste en s'appuyant sur Saint-Augustin notamment, comme réponse au 9-11, au 11 septembre. Et on leur a demandé, le jour de l'ouverture officielle, de parler le plus librement possible. On a eu un débat très libre. Et moi, l'expérience, le souvenir que je garde de cette visite, c'est d'une part la manière avec laquelle on a été reçu. C'est très exactement comme si c'était en Pologne, en Tchécoslovaquie ou en Hongrie à l'époque soviétique. Exactement la même machine, mais en même temps, une machine qui fonctionne, c'est objectif, c'est la vérité, d'une manière soft, d'une manière aisée, agréable, où personnellement, j'ai pu avoir quelques débordements privés, des rencontres qui m'ont permis de connaître l'admirable humus fécond, si fécond de la société civile. Et là, probablement que j'étais surveillé, mais on me lâchait.
Oui, mais ça, c'est, je
pense. Il y avait une forme de liberté relative de laquelle je jouissais. Que pensez-vous, Mohamed Reza Jalili, de cette impression que j'ai eue du temps Khatami ?
Mais écoutez, toute l'intelligence de Khatami, c'était cela, justement, cette poudre aux yeux. Vous savez, son discours sur le dialogue des civilisations, le charme qu'il déployait dans ses voyages officiels ou non en Europe, tout allait dans ce sens-là. Mais sur le fond, il n'a jamais, jamais cédé en quoi que ce soit. Quand les étudiants de l'université de Téhéran et de 18 autres universités du pays se sont soulevés en 99 pour défendre la démocratie, pour défendre un journal réformateur qui défendait les thèses de M. Khatami, eh bien, M. Khatami n'a trouvé autre chose à dire que ce qui compte, c'est l'ordre public et les étudiants n'ont pas le droit de manifester, même pour défendre un journal réformateur proche de M. Khatami. Donc là, il y a toujours joué sur cette double image du leader souriant, contrairement à Khomeini, par exemple, qui ne souriait jamais, et qui essayait d'avoir une relation sociale agréable avec ses concitoyens et surtout avec l'étranger. Ça, c'est sur ça qu'il a joué, mais dans la réalité des choses, son discours ne diverge pas beaucoup par rapport à celui de notre président actuel.
acceptons donc l'aspect non opératoire de la distinction modérée-radicaux. C'est une excellente transition pour nous conduire vers ce qui se passe depuis le 12 juin. C'est-à-dire que finalement, tous ceux qui sont sortis, que représente particulièrement le dynamisme de la société civile, dont je fus personnellement témoin lors de ma visite en Iran, cette extraordinaire verve de la création artistique, de la présence très interrogative et impliquée des étudiants, hommes et femmes, partout hommes et femmes, plutôt peut-être même plus femmes qu'hommes, le rôle de très grands professeurs, de grands chercheurs. Dans les études arabes, j'ai rencontré des gens très impressionnants, d'une immense intelligence, posant une approche très, très, très nouvelle, c'est-à-dire approchant le classicisme arabe de Bagdad, ce grand moment du 9e, 10e, 11e siècle bagdadien, à partir du principe du bilinguisme. Ça n'a jamais été pensé, puisque la plupart de ces maîtres qui se sont exprimés en arabe avaient comme langue maternelle le persan. Et approcher donc ce temps arabe classique à partir du bilinguisme persan-arabe renouvelle totalement l'approche. Et des spécialistes de Proust, traducteurs de Proust, de Michel Léris, c'est-à-dire les études françaises comme les études arabes étaient admirablement honorées par cet espace. Tout ce monde qui est sorti, qui a protesté et qui proteste encore et à la moindre occasion depuis le 12 juin, ne s'exprime pas, même s'il utilise les mots, ni Karoubi ni Moussavi, qui eux-mêmes sont probablement... illustre cette catégorie de démodérés internes au système, ou est-ce qu'il représente quelque chose qui peut constituer une sortie du système, l'Aden Boroumand?
Écoutez, nous sommes dans une situation extrêmement originale en Iran, c'est-à-dire le système électoral iranien est un système de type soviétique avec deux ou trois candidats. Et en principe, les gens pourraient voter pour l'un d'eux. Comme ils sont élus, il y a une sélection très, très stricte, le régime ne craint rien. Mais il s'avère que depuis une dizaine d'années, la société civile en Iran s'est développée, un petit peu aussi grâce à l'ouverture qu'il y a eu sous Khatami. Et en faisant ceci, ils ont investi l'espace des élections exprès pour changer le discours, pour retirer au régime son monopole du discours politique et imposer un discours libéral.
Ils ont fait admettre à Karoubi, par exemple...
Que le voile ne doit pas être obligatoire.
Par exemple, ou le soutien aux Baha'is.
Pas le soutien, mais une tolérance.
Une tolérance.
Et aussi l'arrêt des persécutions. Parce que les Baha'is sont persécutés à tous les niveaux de la vie sociale. On les chasse de l'université, on empêche leurs études, leur travail, etc. Et c'est dans cette optique-là qu'on peut dire « il se peut ». Parce qu'on a vu la manière et la force avec laquelle la société civile a imposé le discours libéral à une partie de l'élite dirigeante, a ouvert une brèche au sein de cette élite. Et il se peut qu'il y ait une défection de cette élite, en fait. Il se peut que Karoubi, et même bien qu'ils disent qu'ils ne veulent pas changer la Constitution, puisse d'une certaine manière, par la force de la société civile, apporter des changements. Mais ce n'est pas sûr.
Très bien. Mohamed Reza Jalili, là on arrive, il nous reste quelques minutes. Je vous demande d'être très bref pour qu'on essaie un peu d'éclairer nos auditeurs sur la situation. La notion que voulait promouvoir cette république islamique, on a vu que c'est une république beaucoup plus révolutionnaire qu'islamique, même si la substance islamique est là et qu'elle a conduit combat contre elle, bien sûr, parce qu'elle est régressive et archaïque, elle ne correspond pas à la mutation des mœurs qui est un désir profond chez nombre d'Iraniens, une masse très importante en tous les cas du peuple iranien. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion, alors, mais répondez-moi très vite, de démocratie islamique? C'est une expression opportuniste, idiote, il n'est de démocratie que démocratique.
Oui, il n'est de démocratie que de démocratique. Je ne crois pas qu'on puisse parler de démocratie islamique comme on ne pouvait pas parler de démocratie quand on parlait de démocratie populaire. Je pense que quand on accole un adjectif
ça devient suspect.
ça devient suspect.
Ça crée le symptôme.
Ça crée le symptôme. La démocratie, elle est là ou elle n'est pas là.
Merci. Merci. Une autre question très importante. J'ai l'impression que le système iranien est très inquiet parce qu'il a vu qu'un pan entier de la société lui a échappé et que ce pan entier ne s'est pas soumis aux normes archaïques de cet islam qu'on a voulu structurant d'une société et que de l'occidentalisme, de l'occidentalité est encore là, bel et bien là, d'une manière naturelle, même pas comme réclamation, même pas comme revendication, même pas comme polémique. Est-ce la raison pour laquelle il y a eu cette toute dernière décision, de laquelle vous devez être certainement au courant, de donner la pédagogie et le contenu du programme des écoles primaires à la Hawza de Qom?
Oui, le système, je dirais, n'est pas plus que, est inquiet plus que cela. Je pense que depuis le 12 juin ou peut-être le 13 juin, le système ne dort plus tranquille et qu'il essaie de tous les moyens possibles et imaginables de réprimer la société. Le slogan, c'est répression, répression et encore répression.
Donc là, il s'est rendu compte qu'il a été défaillant pour le contrôle pédagogique. C'est pour cela qu'il décision.
C'est très certainement, il y a cette décision.
Parce qu'il y a toute une jeunesse qui est née, qui n'a rien connu que la révolution islamique et qui pense loin, très loin de l'horizon de la révolution islamique.
Oui, au-delà même de l'école, il y a aujourd'hui une volonté de purger les sciences sociales à l'université.
J'ai vu ce discours terrible de Khamenei, et il faut islamiser les sciences sociales.
Sciences sociales.
Islamiser les sciences sociales, ça veut dire pas les purger, ça veut dire les abolir, en fait.
Parce qu'on avait déjà purgé, et on avait déjà islamisé.
C'est toujours pareil, c'est
l'enjeu
depuis le 19e siècle à propos des pays islamiques, c'est faut-il moderniser l'islam ? Et il y a eu, c'était la bonne question, qu'elle a été posée au 19e siècle, et depuis les frères musulmans, c'est eux qui sont à l'origine du mal, je pense, il y a eu cette mutation de l'islamisation de la modernité. Et je pense qu'on parle très très souvent de l'opposition chiite, sunnite. Je pense que ce qui a été radical dans l'évolution de Khomeini, c'est le fait que Khomeini ait été le lecteur de Sayyid Qutb, le redoutable idéologue des frères musulmans égyptiens, et de Maududi, le redoutable idéologue de l'intégrisme pakistanais. Qu'en pensez-vous, Mohamed Reza Jalili ?
J'adhère totalement à 100% à votre thèse. Khomeini était lié d'ailleurs déjà dans les années 40 avec les Fadayan Islam, qui était un groupe d'inspiration des frères musulmans, donc égyptiens. Il n'est absolument incontestable.
Les frères musulmans est vraiment la matrice de toutes les dérives de l'islam, puisque ce qui a radicalisé Ben Laden lui-même, c'est la lecture de Sayyid Qutb.
Oui. C'est eux qui ont détruit l'islam comme valeur, comme culture, et ils en ont fait.
Alors, une question, pardonnez-moi.
Brévière politique.
Merci. Une question à l'un et l'autre, réponse très rapide, une ou deux phrases. Que peut-on faire à partir de l'extérieur ? Que peut le monde faire pour aider ce qui se passe actuellement en Iran, faire en sorte que le temps de la mutation se précipite, l'Aden Bormand.
Écoutez, la société iranienne continue son combat. Il y a des manifestations, elles s'organisent tout le temps. Il y a une répression féroce en ce moment qui s'abat sur les journalistes, les militants des droits de l'homme, les militants des droits de femmes. De lourdes peines de prison, il faut blâmer, il faut ne pas cesser. Premièrement, il ne faut pas les oublier.
Ne pas lâcher.
Il faut blâmer constamment.
Vigilance constante de tous
et
pour être honnête.
Et être présent avec eux. Parce que le régime produit du mensonge. Il faut ne pas croire les mensonges du régime.
Mohamed Reza Jalili, le tout dernier mot pour vous.
Tout à fait. Blâmer, mais en plus, montrer aussi au monde qu'il existe un autre Iran qui ne ressemble absolument pas à cet Iran officiel du régime qu'on veut nous faire accepter.
Merci.
Il y a un autre Iran, ce sont les Iraniennes et Iraniens qui sont descendus dans la rue par millions cet été.
Merci infiniment, Laden Boroumand. Merci infiniment, Mohamed Reza Jalili. On aimerait
Merci
être avec vous, dans votre compagnie, avec votre combat, un combat digne, noble et essentiel pour l'évolution de l'islam, comme 1979 a été terrible aussi pour la mauvaise évolution de l'islam. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb, chargé de production Competissa, technique et son Michel Mestre, réalisation, mise en onde François Connac. Merci à leur collaboration.